lui offrant une publication ainsi qu'une somme d'argent. L'annonce finit cependant par tomber, coupant le souffle et les espoirs de Villon sous le pied qu'il s'apprêtait à poser dans le petit monde de la littérature. Un autre manuscrit est préféré au sien. La déception est énorme, et Boris l'accepte mal. L'écume des jours est tout de même publiée, poussée par Sartre et d'autres amis du milieu. Elle n'aura cependant aucun succès, et est même un échec commercial. De la reconnaissance, le roman n'en aura d'ailleurs aucune, du vivant de Boris. Ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'il est reconnu par le public, avant de finalement être élevé au rang de classique incontournable les décennies suivantes. Mais la frénésie d'écriture de Boris ne s'arrête pas là pour autant. Durant l'année 1946, il écrit un autre roman, né d'un défi. Au café de Flore, il rencontre un matin un jeune éditeur. Ce dernier vient de lancer une maison d'édition et propose à Boris d'écrire un ouvrage dans la même trempe qu'un roman américain qui fait un carton. Il retrace le parcours d'un Américain de 47 ans dans les rues de Paris, qui cherche à devenir écrivain du vice. Très cru, très violent, l'ouvrage plaît autant qu'il scandalise l'opinion publique. Il n'en faut pas plus pour titiller la créativité de Villon, un brin subversif. Boris et le jeune éditeur voient ce projet comme un pari, fabriqué en best-seller en 2 semaines, un roman qui se vend mais qui serait aussi une sorte d'exercice dans la tradition du roman noir américain. L'idée à l'origine du livre naît en à peine 10 minutes et le marché est conclu. Le couple Villon a terriblement besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Boris ne supporte plus son emploi. Et puis, il rêve depuis plusieurs mois déjà à des achats quelque peu au-dessus de ses moyens. Ah, c'est que Boris aime beaucoup les voitures. À l'époque, motivé par ses différentes raisons et surtout son désir de multiplier les expériences et les projets, Villon propose même d'écrire le livre en 10 jours. Finalement, c'est en 15 jours, du 5 au 20 août, que l'auteur vient à bout de ce pastiche, scène érotique comprise. Pour le titre du roman, il opte pour le sobrement provocateur « J'irai cracher sur vos tombes ». Alors maintenant que le roman est là, il ne reste plus qu'à élaborer concrètement la supercherie. Pour le publier, Villon se munit d'un pseudonyme. Le réel auteur est censé être un certain Vernon Sullivan, un Américain qui aurait remis le manuscrit à Villon en main propre. Boris ne ferait que le traduire. Le livre est présenté dans la presse comme le roman que l'Amérique n'a pas osé publier en raison de sa dimension érotique. Cependant, tout ne se déroule pas comme prévu et la supercherie est vite découverte. Le récit est si cru, voire choquant, qu'on réclame dans la presse des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur du livre, jugé attentatoire aux bonnes mœurs. Boris est attaqué en justice en février 1947. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 mois plus tard, un fait divers fait la une des journaux. Un homme assassine sa maîtresse et laisse à côté du cadavre un exemplaire annoté du livre incriminé. On accuse Boris d'être un assassin par procuration. Il doit prouver sans plus attendre qu'il n'est pas Vernon Sullivan. Il rédige à la hâte un texte en anglais censé être la version originale de « J'irai cracher sur vos tombes ». Après moult combats judiciaires, le livre est finalement interdit. Dans l'intervalle, le roman a cependant eu le temps de devenir un best-seller, vendu à près de 120 000 exemplaires. Un succès qui a apporté à Boris une belle somme d'argent. Le pari est donc relevé, à tout point de vue. Et malgré les poursuites, Villon n'est pas prêt de s'arrêter là. Si les mots de son alter ego Vernon Sullivan lui ont valu bien des ennuis, ils l'ont momentanément très enrichi. Si bien que, dit-on, c'était Vernon qui faisait manger Boris. Et ce pseudonyme n'est d'ailleurs qu'un parmi les dizaines d'autres empruntés par l'auteur. Joël Bosset, Bison Duravy, Claude Varnier, Eugène Minou, Grand Capitaine, Anatof ou même Honoré Balzac. Plus de 27 ont pu être dénombrés qu'ils aient été utilisés pour signer des articles, des romans ou des chroniques de jazz. Quant aux noms choisis par Villon, ils ne le sont jamais au hasard et sont souvent le fruit de jeux de mots, de références, sont liés au style ou au lieu de sa production. Mais à l'époque, il n'y a pas que les scandales judiciaires et moraux qui ébranlent le quotidien de Boris Villon. Une autre rupture plane dans l'air. une rupture d'un autre ordre, intime, sentimental, amoureux cette fois. Comme s'est évanoui l'amour de Colin et Chloé, séparés par la maladie et la mort, l'histoire de Boris et Michel s'érode peu à peu. Au fil du temps, une certaine lassitude s'est installée. Les folles années de Saint-Germain-des-Prés sont derrière eux, et avec elles, la passion des premiers jours. Les fins de mois sont souvent difficiles, et le romancier passe parfois par des phases dépressives et mélancoliques quand il ne pique pas à son épouse des crises de jalousie. Derrière une apparente timidité, Vian est pourtant lui-même très séducteur et ne manque pas de tromper son épouse. À la fin de leur idylle, le couple laisse depuis quelques mois déjà des histoires intimes se développer en dehors du cadre marital. Michel commence une histoire avec Jean-Paul Sartre, l'ami du couple Vian depuis des années. Elle s'étirera sur plusieurs décennies en dépit du mariage de Sartre avec Simone de Beauvoir. Malgré son physique de notoriété publique plutôt ingrat, Sartre est lui aussi un grand séducteur. En 40, il écrivait déjà ceci. « La grande affaire pour moi fut d'aimer et d'être aimé. Et ce qui me charmait avant tout, c'était l'entreprise de séduction. Une entreprise qui resta pérenne sa vie durant. Son histoire avec Michel ayant duré jusqu'à sa mort. De son côté, Vian n'est pas en reste. Le 6 juin 1950, à une soirée organisée par la célèbre maison d'édition Gallimard, Boris fait une rencontre qui marquera un nouveau tournant dans sa vie. Là-bas, il croise la route d'une ravissante femme, Ursula Kübler, danseuse au ballet de Paris. Il en tombe éperdument amoureux. La flamme du couple Vian vacille irrémédiablement et Boris quitte Michel. Cette dernière raconte. C'est Boris qui m'a quitté, en avril 1951. Il a emporté les Marcel Aimé, les Queneau, les disques d'Ellington et de Fats Waller. C'est tout. Et puis, l'arrache-cœur qu'il n'arrivait pas à finir. Le divorce s'est très mal passé, c'était moche. Il se sentait coincé. Cette rupture avec celle qu'il a tant aimée marque une rupture également dans le parcours créatif de l'artiste. Il y a vraiment une coupure dans sa vie. Les romans et les poésies, il les a écrites avec moi, raconte celle qui est alors son ex-épouse. Je vous raconte l'histoire. C'est une nouvelle vie que doit s'inventer Boris. Tôt, précipitant son divorce, Boris rencontre Ursula Kübler, danseuse au ballet de Paris, dont il tombe follement amoureux. C'est une femme de caractère et très indépendante. Boris est d'abord très intimidé. Ensemble, ils vivent des années difficiles. La santé de Boris se détériore et les soucis financiers jalonnent leur quotidien. Il parvient tant bien que mal à finir son roman, L'Arrache-Cœur. Mais il est refusé par Gallimard. Publié par une autre maison d'édition, il n'a finalement aucun succès. Seul Vernon Sullivan connaît la gloire. Tout ce que Boris Vian signe de son véritable nom, la seule littérature qui vaille véritablement la peine à ses yeux, reste dans l'oubli et ne récolte que l'indifférence. Boris est au fond du trou. Il sombre dans la dépression et renonce à la littérature. Il vit alors assez difficilement de ses traductions ainsi que de quelques articles dans diverses revues. Parvient cependant à écrire des pièces qui connaîtront un certain succès. Avec Ursula, ils vivent dans une chambre de bonne, boulevard de Clichy à Paris. Malgré ce quotidien difficile, leur amour ne faiblit pas, bien au contraire. Boris lui dédie d'ailleurs ce qui sont sans doute parmi ses plus beaux mots d'amour dans son poème « Je voudrais pas crever », écrit en 1952. Alors écoutez, écoutez seulement. « Je voudrais pas crever. Avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, fou bien, restez révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur. » Plusieurs années de haut et de bas, le couple se marie le 8 février 1954 à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Il déménage dans la foulée au 6 bis, cité Véron. Quelques mois avant, Boris et Ursula ont découvert les loges du cabaret du Moulin Rouge, situé au fin fond d'une impasse. Ils tombent immédiatement sous le charme du lieu. L'appartement est petit, mais l'espace leur paraît immense comparé à leur ancien chez eux. Pour eux, c'est le paradis sur terre. Au fil du temps, Boris procédera à de nombreux aménagements et agrandissements pour rendre leur chez eux encore plus accueillant. Ah, c'est que Boris est très grand et qu'il a une fâcheuse tendance à se cogner partout. L'organisation de l'espace est donc primordiale pour lui. Et anecdote qui vaut le détour, Boris constate, après avoir construit la salle de bain, que la baignoire ne rentre pas dans la pièce. Il décide alors tout naturellement de faire un trou dans le mur pour l'y faire passer. Le bain est alors disposé à cheval entre deux pièces, une partie dans la salle de bain et l'autre dans la chambre à coucher. Dans l'appartement, on trouve aussi des centaines de livres, des dictionnaires en pagaille, des tableaux surréalistes et des instruments de musique. Dans un coin traîne un piano bastringue. Dans un autre, une guitare lyre. Dans loin de leur appartement, les deux frères de Vian ont installé un magasin d'instruments de musique anciens, exotiques ou étranges. Et inutile de préciser que Boris y passe beaucoup de temps. Dans le salon, on découvre aussi de nombreux 78 tours, dont une grande partie sont des enregistrements de jazz. Au fond de la pièce se trouve le bureau de Boris. Et juste à côté, une télé dont l'écran est dirigé vers le mur. Et quand on lève la tête vers le plafond, on découvre un échiquier renversé, une autre passion de Vian. Mais ce ne sont pas les seules particularités de l'appartement. On y trouve aussi une pièce précieuse, même sacrée, la quincaillerie, où l'artiste dispose divers outils et matériaux récupérés à droite ou à gauche. Cet intérieur atypique n'est pas le seul élément qui ravit le couple au 6 bis cité Véron. Peu de temps après leur arrivée, Boris et Ursula ont de nouveaux voisins de palier. Jacques Prévert et son épouse Janine, ainsi que leur chien, Hergé. Ensemble, ils partagent une grande terrasse qui surplombe le Moulin Rouge, adossée à leur immeuble. À l'époque, le célèbre cabaret parisien fondé en 1889 fait salle comble avec son célèbre French Cancan et accueille de nombreux artistes tels que Luis Mariano, Charles Aznavour ou encore Bourville. Ce petit coin de verdure au cœur de la capitale est surnommé la terrasse des trois satrapes, désignant Vian, Prévert et son chien. Elle devient rapidement un lieu incontournable du monde de la musique et des lettres. Très souvent, on peut notamment y voir l'auteur Raymond Queneau, ami de toujours de Vian, ou encore Miles Davis, compositeur et trompettiste de jazz américain. Les autres y organisent aussi des fêtes du Collège de la Pataphysique, une société fondée quelques années plus tôt et définie comme un collectif de recherche savante et inutile qui promeut la pataphysique, une parodie de science, définie comme la science des solutions imaginaires qui nécessite la désintégration totale pour reconstruire dans l'insolite. Tout un programme, me direz-vous. Dans ce collectif, on trouve en plus de Vian et Prévert, de nombreux artistes tels que le peintre Miro ou l'auteur Ionesco, tous ayant des rôles attitrés, plus loufoques les uns que les autres. Le 11 juin 1953, sur leur terrasse, Vian, Prévert et le chien Hergé sont tous les trois élevés au rang de transcendants satrapes du Collège de la Pataphysique, dans l'euphorie générale. Ce nouveau départ dans cette nouvelle demeure est aussi une manière pour Vian de prendre ses distances avec Saint-Germain-des-Prés, sans pour autant entièrement couper les ponts. C'est qu'aujourd'hui, sa vie est autre, mais est toujours aussi intimement liée avec la musique et le jazz. Février 1954, il fait d'ailleurs le tour des music halls. Et l'année suivante, il fait ses débuts dans la chanson. Vian a alors 34 ans. Cela fait des années qu'il écrit pour des chanteurs à succès. Serge Reggiani, Salvatore Adamo, Henri Salvador, Marcel Mouloudji, pour ne citer qu'eux. Et c'est quand l'un d'eux refuse de chanter un de ses textes que l'idée lui vient et qu'il s'illumine. On peut vous refuser une chanson, mais peut-on vous empêcher de la chanter ? Après la fête dans les caves de Saint-Germain et la littérature, la musique marque le troisième chapitre de l'existence de Boris Vian. Alors oui, des chansons, il en a écrit toute sa vie. Au total, on peut en dénombrer près de 600, un chiffre ahurissant. Mais ce qui change, ce qui fait toute la différence, c'est qu'à cette époque, C'est lui sur le devant de la scène, derrière le micro. Tout démarre d'une première chanson. Cette chanson, Le Déserteur, écrite en réaction à la guerre d'Indochine, est sans doute la plus connue de son répertoire. En décembre 1954, il passe des auditions aux Trois Baudets et un mois plus tard, il monte sur scène. Il finira par chanter à l'Olympia l'année suivante. La musique devient une occupation constante et même prioritaire. Il enregistre ses morceaux dans les studios Philips afin qu'ils soient gravés sur 2 45 tours intitulés « Chansons impossibles » et « Chansons possibles ». À propos de ces deux projets, Georges Brassens déclare « Boris Vian est un de ces aventuriers solitaires qui s'élance à corps perdu à la découverte d'un nouveau monde de la chanson. Si les chansons de Boris Vian n'existaient pas, il nous manquerait quelque chose. Elles contiennent ce je ne sais quoi d'irremplaçable qui fait l'intérêt et l'opportunité d'une œuvre artistique quelconque. J'ai entendu dire à d'aucuns qu'ils n'aimaient pas ça, grand bien leur fasse. Un temps viendra, comme dit l'autre, où les chiens auront besoin de leur queue et tous les publics des chansons de Boris Vian. » À la même époque, son parcours dans la musique prend une autre direction quand il commence à travailler pour Philips. D'abord chargé de préparer l'édition d'une série de disques de jazz, il devient ensuite directeur artistique adjoint pour les variétés et puis pour les variétés et le jazz. Il est en charge d'un certain nombre d'artistes dont il doit gérer le répertoire, les enregistrements et la promotion. Là-bas, on loue ses qualités d'auteur et de directeur artistique, mais aussi de dénicheur de talent, d'ingénieur du son ou encore de concepteur de pochettes de disques. C'est à cette époque également qu'il propose d'utiliser le terme « tube » à la place de celui de « saucisson » pour désigner les chansons à succès, terme qu'il jugeait plutôt disgracieux. Avec Henri Salvador, il écrit d'ailleurs une chanson portant ce titre. Et puis, coup de tonnerre, en 1959, Boris démissionne. Non, le cœur n'y est plus de toute façon. Il n'en a plus la force. Cela fait bien longtemps qu'il a dû abandonner sa trompette en raison de sa santé. Et puis en 1956, c'est la scène qu'il a dû quitter. Des œdèmes pulmonaires à répétition l'obligent à rester chez lui pour « se reposer », comme disent les médecins. Pourtant, Boris ne sait pas se reposer. Il n'a jamais su. Et même alité, il travaille tout le temps à ses écrits, ses articles, ses chansons, ou bien à des travaux de menuiserie qui le détendent et le passionnent depuis toujours. Malgré lui, Boris s'essouffle. Il doit bien l'admettre. Depuis toujours, il le sent, il le sait. Sa vie durant, il s'est surmené à multiplier les activités pour vivre, tout goûter, parce qu'il savait, que le temps lui était compté. « J'ai un pied dans la tombe et l'autre qui ne bat que d'une aile », écrit-il. Nous sommes le 23 juin 1959. Souffrant le martyr. Malgré les avertissements des médecins, Boris ne décélère pas. L'urgence court toujours. La soif de vivre encore. Boris Vian a 39 ans et refuse que ses mots puissent être les derniers. Dans la matinée, il se rend au cinéma Le Marbeuf, près des Champs-Élysées. Plusieurs de ses amis l'ont accompagné pour assister à la première de « J'irai cracher sur vos tombes », film inspiré de son roman éponyme. Vian est contrarié. Le film a été réalisé en grande partie contre son gré, et Boris l'a d'ailleurs publiquement dénoncé, annonçant qu'il souhaitait faire enlever son nom du générique. Il ignorera cependant tout de la teneur du long-métrage, après 10 minutes de projection à peine, quand apparaissent à l'écran les mots « D'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Il se lève de son fauteuil furieux et s'effondre. L'arrêt cardiaque est foudroyant. Il ne s'en relèvera pas. » Baissé de rideau sur cet artiste protéiforme, amoureux de la vie, de la fête et de l'absurde, définitivement en avance sur son temps. Le collège de la pataphysique annonce le décès du transcendant satrape et publie un de ses textes emblématiques. Le 26 juin 1959, Boris Vian est enterré au cimetière de Ville d'Avray, sa ville d'origine. Et puis, ultime coup du sort, les employés du service funéraire se déclarent en grève ce jour-là. Ce sont donc ses amis qui, après plusieurs heures d'attente, sont contraints de mettre eux-mêmes leur cher ami en terre, souvenir de longues nuits passées ensemble dans les caves de Saint-Germain-des-Prés.